donc je te passe très vite la parole parce que
d'accord.
C'est
bah déjà, ton bébé. Je te remercie, Lani, d'être là et enfin de pouvoir un peu montrer les projets qui sont faits à la Fabrique des Illusions, à l'atelier réflexe.
Prends le micro.
À l'atelier, vous êtes sympa. Prends le micro. À l'atelier réflexe depuis maintenant 17 ans, je pense. Donc, de le rendre peut-être un peu plus visible à Montreuil, parce que c'est un peu une activité qui existe, oui, qui existe et qui est assez active.
C'est connu partout dans le monde, sauf à Montreuil.
Voilà. Et on nous reproche beaucoup une visibilité en France aussi qui n'est pas encore très claire, parce qu'on n'est pas identifiable, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur les couches souterraines depuis très longtemps, et donc c'est très difficile d'être identifiable quand on recherche les souterrains.
Underground.
Voilà.
Maintenant, on essaie de faire surface.
Donc, voilà, grâce à Annie, on fait un peu surface. Donc, j'ai invité Jeanne Bavzar, donc qui est là, qui va aussi... vous expliquer un peu l'orientation de ce qu'on veut montrer avec une image de la femme en Europe, la femme européenne, comme vous voulez, quoi, on peut l'appeler comme vous voulez. Et donc pour ça, je peux vous raconter, si ça vous intéresse, comment le projet va dans l'ensemble être fait, vite fait. Donc il y a des artistes européens qui sont sélectionnés par des différents partenaires en Europe, dont je peux vous donner les noms. Ça vous dira rien, mais bon, c'est pas. Photo Off en Autriche, Silver Bridge qui est en France et en Allemagne, la Fabrique des Illusions donc en France, une école de photographie à Séville, Cobertura Photo, et Support Argenture en Allemagne, et la République tchèque représentée par l'Agence éditoriale internationale. Voilà, donc tous ces partenaires soutiennent ce projet et on va essayer donc de le. Il démarre ici à Montreuil, donc ce soir exactement, on va dire. Et il va se commencer avec un workshop donc, où on accueille des jeunes et on va soutenir aussi dans ce projet des jeunes qui ne sont pas arrêtés par ces artistes intervenants. Voilà. Donc l'atelier réflexe, Jeanne a beaucoup participé à l'atelier réflexe. Plus tard, il vous présentera lui-même mieux ses démarches. Voilà. Donc, pour vous parler un peu de l'orientation de la femme, on a préparé un diaporama. Et en fait, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui permet peut-être de mieux comprendre l'orientation. Donc, c'est un ami, en fait, qui était très cher, qui un jour a ramené un singe. Donc il a ramené ce singe, et il y a certains qui connaissent l'histoire parce que je l'avais déjà raconté. Mais... Donc ce singe, il a ramené en fait pour l'observer parce qu'il se demandait qu'est-ce que pouvait faire un singe, et il l'a enfermé dans une pièce. Donc il a attendu, il s'est dit bon, je vais le laisser un peu vivre dans la pièce. Et à bout d'un moment quand même, il était un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait ce singe dans la pièce. Donc il est allé par le trou de la serrure. Et il a mis son œil et il a observé donc ce que faisait le singe. Et qu'est-ce qu'il a vu de l'autre côté? Il a vu un gros œil qui le regardait. Voilà. Donc en fait, tout ça c'est pour vous dire qu'en fait l'image de la femme qu'on a envie de montrer, c'est pas celle d'un singe dans une pièce enfermée qui va définir son rôle, sa place, son ambition, tout ça. C'est plutôt de montrer ce qui se passe dans le trou de la serrure. Donc c'est pas une image voyeuriste, c'est plutôt de cet espace qui est dans le trou de la serrure qui nous intéresse. Donc la partie invisible qui peut se dégager de la femme. Et dont Eugène qui est là, qui pourra en parler encore mieux peut-être que n'importe qui, parce qu'il a la particularité d'être non-voyant, qui peut être considéré dans certaines sociétés comme un handicap, mais aussi qui a un avantage pour voir... peut-être mieux que les gens qui ont des yeux et qui peut-être ont du mal à s'en servir. Voilà, donc on peut peut-être commencer avec le diaporama, Margot. Voilà. Ben, je vais m'asseoir pour ça. Ouais. Je vais peut-être me tourner. Donc là, on va un peu... montrer des différentes orientations peut-être dans la photographie, dans le genre photographique qui passe d'une représentation plus sociale avec la photographie objective donc de ce photographe autrichien qui s'est intéressé aux campagnes allemandes et aux habitants, dont des femmes et ses entourages. Donc vous voyez, ça étudie plus le rôle, peut-être l'image de la femme. Et là, Morten Andersen, on passe à une photographie peut-être plus subjective, qui part d'un quotidien banal de sa vie, son entourage aussi, et qu'il traite plus sous la forme d'impact émotionnel, on peut dire, ou de vision assez directe. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi en poser. Hein. Cette photographe hollandaise, là, c'est une série qu'elle a faite sur les adolescentes. Donc ça va de soi sur ce que ça peut représenter aussi dans l'image de la femme. C'est un peu peut-être entre la photographie objective et subjective, si on voudrait les classer aussi par genre. Elle n'est pas si distante que le Bernard Fuchs. Alors Viviane Sassen aussi est hollandaise et elle utilise un peu les clichés de la référence de la photographie de la mode internationale et en fait elle casse les combinaisons. Ce serait un peu comme il y a un coffre-fort et on a un code et elle change les codes. Comme vous avez vu l'ombre, normalement elle se fait derrière. Bah là elle le met devant, elle cache le visage ou des dérèglements un peu comme ça de spatio-temporels. Anders Petersen, un photographe suédois qui traite la photographie d'une façon sociale mais aussi très subjective, très directe, très frontale, comme il dit souvent quand il vient à Reflex. Lui, de photographier, c'est avec les tripes. Il conseille aux étudiants de se prendre pour des chiens quand ils voient leur modèle et de les renifler. Et d'autres conseils aussi, mais quelques étudiants sont là et pourront en parler plus tard. Donc il a aussi bien étudié les milieux des prisons, des fous, de la prostitution, quoi, des milieux sensibles et de la nuit. Voilà. Eugène Bavzar qui est là, donc je laisse lui-même rapidement, globalement, dire. Voilà.
Non, tout d'abord, oui, on entend. Tout d'abord, je dois remercier donc les organisateurs de cette rencontre, de m'avoir invité. Il y a deux écoles ou deux mouvements photographiques en Europe que j'apprécie en particulier. C'est l'école de la photo artistique de Vienne de Madame Kubelka et Reflex donc de Madame Véronique Bourgoin. Ce sont deux écoles qui ont pour la première fois invité aussi moi, c'est-à-dire en tant que photographe aveugle ou iconographe, quand je dis prêtre. C'est une métaphore, mais ça veut dire que je suis un peu moine qui a un rapport sacré à l'image. Et donc, ces deux écoles progressistes, ça correspond tout à fait à ce que je cherche. Je cherche l'invisible. Et la photographie de la femme, pour moi aussi, ça revient de cette même question, qu'est-ce que c'est qu'invisible? Donc, il faut me décrire des tableaux. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi?
Votre photo.
Oui, c'est quoi?
C'est un nu.
Oui, un nu.
Qui est assise avec les jambes croisées.
Elle est assise ça, c'est la description. Oui, c'est ça. Donc, en réalité, elle n'est pas nue, mais elle est mortelle. Hein, la figure de la femme, n'est-ce pas? Quand on montre nu, on montre la mortalité d'une personne. Parce que dans la Bible, Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils sont nus quand ils sont devenus mortels. Donc, je ne vois pas mes modèles. C'est invisible. Pour vous, ça existe, vous le voyez, vous me communiquez, et comme ça, ça existe pour moi. Donc, il y a un passage entre la parole, la description, et entre le visible. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que, comme disait quelqu'un, entre l'homme et l'amour, il y a la femme. Entre l'homme et la femme, il y a le monde. Entre le monde et le monde, il y a un mur. Et sur mon mur, il y a quelques images, et je suis très content.
D'accord. Merci, Eugène. Ben, je vous repasse la parole tout à l'heure. Donc on continue de voir vos images. Donc vous voyez beaucoup les mains, en fait vous touchez les modèles.
Oui, ça s'appelle la vue tactile. C'est le regard rapproché. Je dois porter le regard très près. Je ne touche pas mes modèles, hein. Je les regarde de près. Hein. C'est vous qui dites que je les touche, mais moi je ne touche pas. Hein. Je regarde de près. Voilà.
D'accord. Et vos prises de vue sont toujours réalisées dans le noir avec...
Dans le noir avec les lampes de poche. Il faut que les personnes n'aient pas peur des ténèbres et des lampes de poche qui apparaissent d'un seul coup, voilà, dans l'obscurité.
Alors, Mina Koronen est une photographe finlandaise qui, là, ce que vous allez voir, c'est un travail qui est dans le temps, une étude dans le temps sur sa grand-mère qui a été réalisée pendant au moins 3 ans. Donc, c'est un peu présenté comme sous la forme d'un journal intime. Donc, cette femme qui vivait en émigré aux États-Unis, donc une femme européenne immigrée, et qu'elle l'a suivie et réalisée après les sélections des images aussi sur 2 ans. Quoi. C'est un travail qui s'est déroulé au moins pendant 10 ans. Et elle a voulu montrer, peut-être ça ne se voit pas dans la sélection qui est là, mais aussi le rapport de sa grand-mère là, en tant que femme privée, femme publique aux États-Unis. Et c'est... Et son monde personnel. Laurie Simpson. En fait, elle prend l'image officielle de la femme au foyer, on va dire, ou de la femme qui est représentée dans les médias, et elle les détourne et elle en montre un peu les petites catastrophes ou les petites failles qu'il peut y avoir au quotidien, qui sont en général cachées par l'image officielle. Et elle met en scène que des personnages factices où vous verrez plus tard, elle joue avec les masques, les découpages, collages. Lars Thunberg est aussi un photographe danois. Dans cette série aussi, montre un peu la femme au travail, dans ses lieux de travail. Et en fait, c'est un peu la logique du travail qui est un peu renversée dans des aberrations. Et là aussi, un peu, les personnages sont comme des poupées. Mais là, c'est la réalité. Il met pas en scène ses photographies. Deborah Chamonix, qui est une vidéaste tchèque qui, en fait, réalise beaucoup de clips avec toute la scène rock-punk allemande et particulièrement des groupes de filles assez engagées et qui, par contre, elle, dans toute sa démarche, c'est plutôt elle essaie de détruire toute cette image du travail, du labeur. Oui. Katrina Daschner, qui est une photographe allemande. Donc, qui travaille la photographie aussi comme la performance et qui est assez active dans ses photographies, qui met des petites histoires en scène et qui aussi travaille sur le genre féminin, masculin et l'identité. Oui. Riska Zekamp aussi travaille sur un peu dans une autre démarche, mais aussi sur le genre, la métamorphose de la femme, son identité, son rôle, et bouscule toutes les conventions qu'on peut avoir. Charlotte Kuhn, elle montre les lapsus du quotidien, les impossibilités pour... Elle provoque souvent une désorientation qui mettent un peu toutes nos références en apesanteur, comme une sorte d'apesanteur. Et ces indications, elle a une indication technique pour les spectateurs qui s'appelle la téléportation au cœur de l'objet. Jonathan Mess, artiste allemand, qui est un... Là, c'est une série d'autoportraits où il joue avec lui-même. Martin Kippenberg, ici, c'est une... donc un artiste allemand. Ici, c'est une série qui provient déjà d'un livre qu'il a fait qui s'appelle Woman, qui est enfin une forme d'archivage de toutes les femmes qui ont été proches dans sa vie, que ce soit ses amis, les femmes de ses amis, les amis, des amis. Et c'est un peu la référence des photos de famille aussi, comme on trouve dans les albums photos. Antoine D'Agata, photographe français, qui recherche un peu à travers la photographie l'expérience extrême, comme il dit, de la réalité sans essayer d'expliquer ou de démontrer quoi que ce soit. Il veut juste essayer de vivre les choses et de les retranscrire en photographie le plus brutalement ou directement, à travers souvent un monde de la nuit, de dérives, de rencontres hasardeuses. Donc là, ce sont mes images qui un peu jouent avec un basculement entre l'illusion et la réalité, avec la construction d'images mentales à partir d'une vie du quotidien, d'objets assez proches qui, dont la signification peut être détournée. Donc là, ce que vous allez voir maintenant avec l'atelier réflexe, c'est un peu une sélection de que chaque jeune qui a été pris pour participer au projet au sein de l'atelier réflexe a fait. Donc c'est pas encore abouti, bien que vous verrez, il y a quand même des choses qui sont peut-être déjà abouties, d'autres moins. Il y en a qui sont présents dans la salle, donc ils peuvent peut-être expliquer parce que je les ai pas vus. Ils m'ont envoyé leurs photos et il y a des choses, j'ai pas envie de les expliquer pour eux, surtout qu'ils sont là. Donc si vous pouvez peut-être vous rapprocher, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et puis ça prend un peu de temps parce qu'ils sont très timides. Voilà, ça arrive. On est peut-être presque au complet là. Donc, vous allez vous passer le micro. Et ceux qui sont absents, c'est pas grave, vous regarderez les images. Et de toute façon, les images en général sont suffisantes pour parler. Il y a des spécialistes qui écrivent des textes sur ça.
Bonjour Margot, je vais passer juste après le titre de l'atelier réflexe. Donc en fait, ce sont des photos que j'ai prises dans des pays très différents, l'Allemagne, la Chine, la Russie, l'Autriche. Et en fait, j'ai essayé à travers tous ces pays différents, de trouver un lien entre quelque chose d'universel chez la femme et chez les gens en général. Enfin bon, voilà. C'est tout ce que je peux ajouter. C'est un lien qui c'est une bonne question. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui nous rattache, enfin quelque chose où on se ressemble beaucoup les uns les autres sur plein de points, et j'ai voulu à travers ces pays très différents montrer cet aspect universel en fait, je pense. Alors Natacha n'est pas là. Donc Natacha qui a participé à un atelier, à un stage à Marseille. Donc c'est un travail qui a été fait à Marseille, à l'atelier de Visu, pendant 2 semaines où elle a donc fait des photos sur la ville de Marseille et les gens qui l'ont entourée pendant ce stage. Voilà. Sophie Carlier a fait ce travail a été fait également à Marseille pendant ce stage. Mais Sophie Carlier a la particularité de faire un travail de faire des autoportraits en fait, un journal intime d'elle et des gens qu'elle rencontre et de, des situations très personnelles qui lui arrivent. Charlotte, qui est aussi donc qui a été à l'atelier Reflex l'année dernière et qui a fait également le stage à Marseille. Donc ça, c'est un travail qu'elle a fait en Italie cet été. Et voilà, je... Manuela.
Bonjour. C'est un travail que je fais dans la ville où je suis née. J'ai pris des photos des les endroits de mon enfance avec les femmes de mon enfance avec qui j'ai une relation qui sont importantes pour ma vie, qui m'ont formée.
Donc Sylva qui a également fait le stage à Marseille. Donc ça, ce sont des photos qu'elle a prises cet été, je crois. Ce sont ses dernières photos. Parmi elles, certaines ont été faites à Marseille. Donc qui fait énormément de portraits. C'est au gré de ses rencontres également. Elle est d'origine turque.
Yanis.
Je parle souvent de la distance et des barrières que les gens peuvent se mettre entre eux, ou peut-être que je mets moi avec les gens en général. Donc il y a un peu tout qui se transforme en mur, que ce soit des vraies façades ou des morceaux de corps ou des visages.
Elias Linden, qui va participer donc au projet Human, qui est photographe suédois. Et donc, il nous a envoyé cette série. C'est difficile de... Oui, voilà, c'est très difficile de...
Alors, moi, je voulais vous montrer toutes les idées qui me sont venues quand ce projet nous a été proposé. Donc, j'ai décidé d'appliquer méthodiquement, même si... Deux secondes pour que je puisse l'expliquer avant. Peu importe, voilà, de manière méthodique. Donc, il y a quatre débuts de série. Donc, c'est vraiment des coulisses. C'est pas du tout ce que je garderai forcément, et peu importe. Voilà, donc, il y a un premier projet qui est de travailler avec des hommes à qui j'ai confié des appareils photo jetables et à qui j'ai demandé de photographier ce qui était pour eux une femme ou les femmes ou la femme. Et donc, j'ai eu une série de rendez-vous avec ces hommes où... je les ai moi-même photographiés, où j'ai fait des questionnaires sur la femme que je leur ai donné, enfin tout un tas de choses. Bon, là, il n'y a pas grand-chose qui en, pour l'instant, que je peux montrer là, mais c'est, donc là, c'est les portraits que j'ai fait d'un de ces hommes, et un extrait des photos que lui a fait. Ensuite, ça, c'est une série plus fictionnelle, plus émotionnelle aussi sûrement, donc d'un parcours de lieux ou de moments mélancoliques, plus poétiques, qui n'était pas forcément une idée, mais plus des sensations et des émotions. Alors ça, c'est un travail sur le nu que, en fait, je fais depuis plusieurs années, que je continue à l'occasion de ce projet de la femme, mais je sais pas du tout où j'en suis, et je fais, mais je sais pas quel sens ça a, voilà. Alors ça, c'est parti d'une enquête que j'ai fait auprès de plein de gens en demandant qu'est-ce que c'était les formes géométriques qu'évoquait la femme et les symboles. Et en fait, le rond revenait toujours. Alors voilà, j'ai photographié. Du coup, j'ai voulu transposer la présence de ces ronds. Si les ronds sont des femmes, alors il y a plein de femmes autour de nous.
Les ronds ou les rondeurs ?
Les ronds. Le rond. Voilà. Donc ça, c'est un peu un mix de toutes les choses qui m'ont été dites.
Mais c'est ce que tu penses ?
Non. Enfin, c'est pas une pensée, en fait, je pense.
Tout ça, c'est pas clair.
Non, c'est pas une pensée, c'est plus une réception de quelque chose que j'ai recueilli, voilà. Et ça, c'est moi qui l'ai fait en fonction de ce qu'on m'a dit. Comme on m'a dit que la femme est un rond, bon, j'ai fait ces photos-là. Il y a beaucoup de ronds, en fait, partout. À Eugène, là, c'est l'orifice d'une poubelle, avec les déchets qu'il y a dedans. Là, c'est une sonnette avec écrit sonner puis tirer la porte, et il y a le petit rond, le bouton sur lequel on appuie pour sonner.
Il y a aussi une femme dans la poubelle. Non,
il n'y a pas de femme, enfin, sauf si on décide que la femme est un rond. Ça, c'est le, comment ça s'appelle, le trou d'un lavabo avec de l'eau éclaboussée autour, et comme il y a un flash, l'eau elle apparaît. Et là, c'est une lampe avec un abat-jour rond.
Donc Rissola, qui n'est pas présente ce soir, mais qui va également participer au workshop, et qui est espagnole, qui a fait une série de portraits de très posés.
Alors, ce sont des photos que j'ai faites pour Reflex au cours des deux dernières années. Et le, je pense que ça parle du rêve, des illusions, un peu, c'est un peu un journal intérieur, on va dire.
Et qu'est-ce qu'on voit?
Bah, ça va vite, là, on voit un lit.
Qu'est-ce que vous voyez vite?
Comment?
Qu'est-ce que vous voyez vite?
Bah, alors là, il y a un dos avec des marques de draps imprimées dans le dos. Et c'est en noir et blanc.
Donc Marie, qui a fait en fait un travail, ce sont des images extraites d'une vidéo où elle demande de raconter donc à ces personnes, donc il y a des hommes, des femmes, leur dernière histoire d'amour. Voilà, donc ça, ce sont des images qui sont extraites de ce travail qu'elle fait en vidéo.
Bonsoir. Ben, moi, j'en suis un peu à chercher, je crois, ce que je veux dire au travers de ce sujet. En me disant aussi que quand je j'aurai trouvé, ben, ce sera facile à réaliser. Je crois que c'est vraiment ça ce qu'il y a de plus difficile à trouver, enfin, pour moi, en tout cas, dans un sujet. Donc voilà, je pars sur des portraits et puis des lieux. C'est vraiment, j'en suis vraiment au début de mon histoire, je crois.
Bon, merci. Donc voilà, là vous avez compris, cette partie-là, c'était les jeunes photographes qui seront parrainés pour ce projet et qui le résultat de leurs images sera soumis à une sélection plus tard par les artistes intervenants, etc. Donc ils sont en pleine étude et voilà. Donc peut-être ce qui serait sympathique, c'est de peut-être présenter à Eugène Bazin une des images qu'il puisse voir plus précisément, et de s'arrêter sur une image. Donc Margot, si tu peux choisir une image pour Eugène. Tu peux prendre une à toi si tu veux, tu sais. Hein. Profiter de l'occasion pour. C'est quand même exceptionnel d'avoir un Eugène Balzar qui regarde ces images. C'est une chose auquel j'ai pas encore eu la chance de. Et j'aimerais bien une fois aussi, Eugène, qu'on puisse voir mes images.
Donc là, je vais poser quelques questions pour aller.
On n'a pas encore l'image.
Ah oui, d'accord.
C'est une femme allongée sur l'herbe.
Donc c'est une figure de femme allongée.
C'est une
figure de femme allongée.
C'est
une figure.
Oui, genre.
Voilà.
Et elle est complètement perdue au milieu de cette pelouse.
Oui.
Donc c'est une femme allongée, perdue au milieu d'une pelouse.
D'accord, oui.
Et elle se fait bronzer, elle a un tissu blanc qui apparemment lui recouvre les yeux pour sûrement se protéger du soleil.
Oui.
Elle est allongée sur une serviette blanche.
Oui.
Et elle est en maillot.
Elle est en maillot.
C'est une femme qui, je pense, peu âgée. Mais...
Donc tout le monde voit cette image-là. Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui cache cette image-là? Elle regarde comment, la femme? La figure de la femme, elle regarde comment?
Elle a l'air... On distingue pas vraiment le visage, déjà parce qu'il est...
Oui, mais ce qu'on suppose comme regard.
On suppose qu'elle peut être détendue vu qu'elle est allongée face au soleil, hein, et qu'elle prend un bain de soleil. Donc,
oui. Est-ce que quelqu'un la regarde?
Moi?
Oui, d'accord, oui, mais quelqu'un d'autre aussi?
Non.
Voilà, bon.
Non, elle est seule sur l'image, en tout
Alors,
cas.
Alors, si on regarde de loin, qu'est-ce qui vous saute aux yeux?
La place du photographe.
Voilà. Donc, c'est plus important que la figure de la femme.
Mm.
Oui?
Oui.
D'accord, ça c'est déjà intéressant. Donc, c'est un rapport qui pour moi, entre une autre dimension. Voilà. Mm-hmm. Et puis, elle est comment? Il y a beaucoup de rangs parce que, bon, tout à l'heure, on parle. Oui. Excusez-moi de vous poser la question parce que je suis un peu les descriptions de tout à l'heure.
Bah, disons que elle a des rondeurs, oui.
Mais d'accord. Non, des rondeurs, mais pas des ronds.
Non.
Bon.
Elle semble un peu en apesanteur, en fait, au milieu de cette pelouse.
Et tout à l'heure, on parlait beaucoup des couleurs. En
fait. Alors oui, les couleurs, oui. C'est une pelouse verte,
oui.
Avec un peu de jaune parfois et des petites fleurs blanches. Elle a un maillot de bain rouge et elle est allongée sur une serviette blanche.
Voilà, ça c'est très important. Donc moi, quand je demande la description des photos, parce que je pense que si quelqu'un fait une photo, il doit avoir aussi une représentation intérieure. Et lorsque la personne est capable de raconter quoi que ce soit, n'importe quel mot et tout ça, il y a déjà une histoire, ça veut dire qu'on va déjà au-delà du visible. Et est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui renvoie à tout à l'heure, on parlait beaucoup des orifices. Il y a des orifices là? Et? Non.
Non.
Tout est bouché.
Oui.
C'est vrai.
Il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Enfin,
voilà.
Voilà, c'est sûr.
Donc, elle est là.
Oui, elle est bien présente.
Elle est là. Vous pourriez être là aussi comme ça.
Oui, tout à fait.
C'est ce qu'on appelle l'identification.
Oui.
C'est bien.
C'est vrai.
Voilà. Et qu'est-ce que le mot invisible?
Qu'est-ce
qui est le mot invisible sur cette image-là?
Ce qui
mot invisible, ce qui saute le
mot
aux yeux.
Le mot visible.
Oui, le mot présent.
Ce qui est le mot visible.
Oui.
Non, le
mot invisible.
Le mot invisible.
Le mot, oui.
Ce à quoi elle est en train de penser.
Bah, oh, c'est bien. Que d'autre?
Oui, effectivement.
Hein? Oui, ça aussi, d'accord, ça j'ai remarqué après. Et puis?
Sur quoi? Parce qu'en fait, ce que tu n'as pas dit, Margot, c'est que le photographe, il est du dessus par rapport à elle. Et moi, ma question, c'est sur quoi il est, le photographe?
Uh-huh.
Quel est l'objet qui lui permet, alors qu'il y a juste une prairie vide,
uh-huh.
d'être surélevé comme ça par rapport à cette femme?
On dirait un peu une vue aérienne.
Ah, d'accord, c'est ça. D'accord, voilà, ça c'est très important.
Ouais,
oui.
Et elle a l'air de petite.
Donc,
oui, elle est un peu perdue dans le. Elle est un peu perdue dans cette pelouse. Mais pourtant, c'était un endroit très.
Mais vous croyez que le photographe veut faire d'elle un objet comme ça en se mettant au-dessus ou non? Non. Il n'a pas de domination entre
non.
celui qui regarde et celui qui a vu.
Je pense pas, non. Enfin, je. Non.
Quand
j'ai fait la photo, non. Quand j'ai fait la photo, bien sûr que non, mais.
Oui. Non, mais maintenant, ce que la photo dit, oui.
C'est-à-dire que, bizarrement, j'ai fait la même photo, mais d'un homme, mais un peu la même chose. Et on avait plus cette sensation, mais parce que l'homme était plus écroulé sur l'herbe, donc peut-être que là, on sent qu'elle est quand même.
Oui.
Elle est détendue, quoi, que c'était un moment de. Presque intime pour elle aussi, puisqu'elle est seule.
Elle n'est pas écroulée.
Pas du tout.
Comme l'homme.
Non, elle n'est pas écroulée comme l'homme. Hein. Au contraire, elle est même allongée, elle tient sa serviette, on sent qu'elle est bien, bien en place. Quoi.
Si vous aviez la possibilité de refaire cette photo, ce serait la même ou ce serait un peu différente?
Non, je pense que ce serait la même.
Oui, c'est bien. Hein. Je vous remercie de cette description.
Peut-être faire une autre. Oui, peut-être une quelqu'un de qui a fait des photos. Une autre paire.
C'est très intéressant.
Oui.
Ça donne une autre dimension. Oui.
Oui, très bien.
Alors, bien. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit d'abord?
Bah,
prends la noir et blanc avec les petits chevaux.
Voilà.
Donc là aussi, il y a encore un homme allongé, un peu la même position que tout à l'heure, la même oui. proportion que la femme. Il est perdu dans un espace qui... Ça, c'est pas de l'herbe, c'est de la moquette.
De la moquette. De quelle couleur, la moquette?
Elle est en noir et blanc.
Oui.
Elle était d'accord. Blanche.
Elle était blanche, c'est beau, oui. D'accord.
Et l'homme, en fait, c'est pas un homme, c'est un petit Ken Barbie.
Oui.
C'est une poupée.
C'est une poupée, oui. Oui. Et la poupée, elle vient comment enfin, c'est...
Il a...
La tête, c'est où?
La tête, est... il est allongé. La tête est un peu tendue. Un peu... Il essaie de se lever, mais il n'y arrive pas.
Oh,
il a les bras repliés.
Oui.
Il est un peu trop raide.
Oui.
Un peu immobilisé.
Où va le regard de la figure?
Droit devant lui. Vers le ciel.
Vers le ciel. Et le vôtre?
Le mien, il est en plongée.
En plongée, oui.
Donc après, quand même, cet homme, il est pas entouré d'un espace vide. Il y a énormément de petits chevaux autour de lui.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que font ces chevaux?
Ils partent un peu dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Il y en a qui sont par terre, il y en a qui sont chevauchés par d'autres femmes. Il y a des femmes par terre, d'ailleurs, qu'on voit, qu'on devine. Il y a une femme, d'ailleurs, qui semble fuir. Vers nous.
Oui.
Oui, c'est ça. Avec un cheval devant aussi, on distingue une chevelure aussi.
Oui.
Qu'elle suit.
Mm-hmm.
Et plus loin, il y a l'homme et il y a un cheval noir qui regarde l'homme.
Mm-hmm. Donc, le féminin est représenté par quoi, le féminin?
Le féminin?
Oui.
Par la moquette?
Par la moquette.
Je ne sais pas. Je
pose la question comme ça. Enfin. Oui, les chevaux, c'est des hommes, quoi. Enfin, le masculin. L'élément masculin. De l'image.
Mais il a une belle crinière, un bel chevelure pour un homme, hein, quand même.
Ah oui, d'accord.
Toujours les chevaux ont des grands cheveux longs blancs.
Ah, c'est bon, oui.
Hein, les bouclés.
Oui, oui. Et si on regarde de très loin, qu'est-ce qui saute aux yeux dans cette image?
Qu'est-ce qui saute aux yeux?
Oui.
Je ne sais pas, peut-être quelqu'un peut le dire.
Quelqu'un peut
le
dire, oui.
La danse.
La danse. C'est le mouvement, n'est-ce pas?
Oui.
Moi, je sens le mouvement. Et, écoutez, Véronique, là, un détail. Est-ce qu'il y a un détail qui est très caché? Qu'est-ce que vous voudrez dévoiler?
Il y a un sac plastique qui est dans un coin.
Ah, ça, c'est bien, c'est bien.
Il y a un pied d'une table.
Merci beaucoup.
Il y a... On devine qu'en fait, c'est à travers une porte aussi qu'on voit tout ça.
Oui.
Il y a un angle de porte.
C'est vrai?
Au fond, oui.
Voilà. Et les chevaux, ils ont quelle expression du visage?
Ouais,
enfin, on le suppose.
Comme dans un supermarché.
D'accord.
Il va attendre d'être acheté, peut-être. Oui. Je ne sais pas. Je n'avais pas pensé à ça. Mais
oui, non, mais je pose la question. Et là, la crinière du cheval, ça renvoie à quoi comme figure? Oui. Oui. Elle est très régulière ou c'est sauvage?
Elle ressemble à Barbie, un peu la chevelure des chevaux.
Oui. C'est bien, oui. Et la lumière, alors, dernière question.
La lumière est un peu sous forme de contre-jour.
Oui.
Elle vient d'une lumière, d'une fenêtre qu'on ne voit pas.
Voilà.
Et voilà.
Oui.
Et elle descend jusqu'à l'entrée de la porte.
Oui, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire, ça me donne l'atmosphère, l'ambiance. Par cette lumière-là, et ça enlève la violence apparente dans cette quantité, n'est-ce pas, des éléments visibles. Et ça renvoie à l'invisible, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Et donc, en contre-plongée, et qu'est-ce qu'il y a au sol? Est-ce qu'il y a une ombre quelque part? Il n'y a rien.
Une ombre?
Oui.
Oui, il y a des ombres.
Ça, c'est important.
Des ombres des chevaux.
Voilà. Voilà.
Mais, oui, il y a des ombres.
Ça, c'est très important parce que pour moi, ombre accentue l'existence d'un objet, n'est-ce pas, fortifie, donne une existence presque réelle. Voilà. Merci beaucoup, c'est merveilleux comme description. Comme ça, cette photo, par la communication de la parole, existe aussi pour moi, à travers la description. Et souvent, donc, quand je donne des séminaires ou les conférences, je demande la description. Et comme ça, il y a une espèce de partage d'un lieu invisible ou visible pour les autres, mais aussi pour les autres invisible, parce que la parole souvent dévoile ce qu'on ne voit pas, ou on n'a pas pensé de voir ça parce qu'on n'a pas osé de dire quelque chose, et pour ne pas se ridiculiser parfois, ou parfois aussi pour ne pas dire les secrets, ce qu'on a voulu mettre dans une image. Alors je travaille beaucoup la description, comme ça toutes mes images sont décrites aussi par les autres. Et là, c'est vraiment une dernière question: le côté le plus obscur de cette image, c'est où? Là, on peut vraiment se cacher.
C'est là où est le photographe.
Merveilleux. Voilà. Donc, dans la chambre obscure. C'est bien.
Qu'est-ce que c'est après le virolique? Qu'est-ce que c'est le près du pied de la table là?
Comme un espèce de berceau ou de carrosse. Tu sais, les trucs Barbie. C'est une chose qui s'est détachée du cheval.
C'est bien. Ça m'a fait rire un peu aussi parce que je connais un artiste slovène qui représente un peu la virilité masculine par des chevaux, n'est-ce pas? Mais ces chevaux sont très violents. Ils veulent manger tout ce qui est autour. Là, c'est plus subtil. Hein, c'est...
Bon, merci. Donc, peut-être vous avez des questions et aussi Jeanne, des choses à nous dire en plus sur le sujet de la femme.
Non, pour dire quelques mots, bon, ce sujet, ça m'attire beaucoup. Tout d'abord, rien que le titre, la femme européenne. Déjà, l'Europe, comme nom, ça commence par une femme. Et si on parle de femmes en Europe, rien que les noms, ça renvoie toujours à une histoire européenne, la culture européenne, judéo-chrétienne, tous les noms sont d'origine grecque ou hébraïque, etc., n'est-ce pas? Mais quand on dit femme européenne, ça me fait penser aussi à un célèbre mythe grec sur la femme kidnappée, parce que l'Europe, c'est une très belle fille, c'est la fille du roi de Phénicie, bon, ça n'a pas d'importance, c'est le mythe, et donc elle est kidnappée. Et je vais vous raconter vraiment de façon très, très brève, comment Zeus, c'est-à-dire le dieu principal des Grecs, kidnappe la belle Europe, donc la femme. Alors, il se transforme en taureau, parce qu'il est dieu, il peut le faire, en un taureau blanc, mais il prend, ses cornes prennent la forme de la lune. Vous voyez? C'est pas un hasard, hein? Donc, il se transforme donc en un taureau blanc. Méchamment, on dit parfois que les femmes veulent en même temps avoir un taureau, un bœuf, n'est-ce pas? Bon, Zeus a choisi le taureau, quoi, d'être taureau. Mais, tout de même, un taureau doux, parce qu'il devient blanc. Le taureau d'habitude est noir, hein, n'est-ce pas? Il devient un taureau blanc, donc il veut attirer la femme par la blancheur de sa présence, par une image neutre, par toutes les couleurs qui sont réunies dans le blanc. Bon, j'explique comme ça. Après, donc, la belle Europe, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une femme. Elle regarde, mais tiens, c'est quoi ça, ce taureau blond? En plus, il y a quelque chose qui rappelle moi-même, se dit la belle Europe, la femme européenne, la première, si vous voulez. Quelque chose qui rappelle moi un peu mon côté de la lune, hein, parce qu'il a les cornes en forme de la lune. Voilà. Ça, pour vous parler de mythe. Donc, l'Europe, c'est une femme qui est kidnappée. Elle ne sent pas le danger de taureau blanc, n'est-ce pas? Donc, elle monte dessus. Et à ce moment, il devient vraiment taureau. Il part, il l'emmène dans la mer, etc. Elle la kidnappe. Voilà. Donc, on peut parler de la femme européenne comme femme violée, comme femme kidnappée ou comme femme objet. D'où l'importance de parler de ça aussi pour libérer l'image de femme et aussi pour libérer tout ce qui est dans cette image-là. D'autre part, si on parle de la femme européenne, si vous regardez des images d'autrefois, par exemple la femme à l'époque romaine, vous voyez que les mêmes coiffures existent en Europe centrale, à Rome et tout ça. Donc il y a déjà une unité, quelque chose d'universel. Mais la femme européenne, c'est quoi? Est-ce que ce sont des femmes qui étaient réunies dans les harems de sultans? Alors, il y avait beaucoup de femmes européennes de tous les pays, mais la femme européenne, ça n'existe pas, c'est l'invisible. Si on pouvait définir la femme européenne, dans ce cas-là, ce serait très facile. La femme européenne, c'est un tout. Ce sont des images à gauche, à droite, morcelées, qu'on réunit, qu'on essaie de réunir, après qu'on détruit de nouveau, qu'on décompose. Et puis, si on parle aussi de la femme européenne, on peut parler aussi de l'époque arabe, où il y avait aussi des harems, où il y avait des femmes concrètes qui étaient réunies, de toute Europe à peu près. N'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire, là, il y avait une femme européenne. Et aujourd'hui, c'est quoi, la femme européenne? La femme européenne, pour moi, c'est quelque chose qui est au-delà du visible. Parce que si vous regardez un certain type de la femme, c'est pas ça qu'on peut dire européenne. Qu'est-ce que réunit, qu'est-ce qui est une chose qui peut réunir la femme européenne? C'est justement une espèce d'ouverture de l'infini. Parce que si on dit, bon, la femme espagnole, c'est un cliché, la femme italienne, c'est un cliché, allemande aussi, russe, je ne sais pas, française. Pour moi, autrefois, le modèle de la femme française, c'était Brigitte Bardot, parce que je l'ai vu quand j'étais petit, et après j'ai cru que toutes les Françaises ont des bouches comme Brigitte Bardot. Vous voyez, donc c'est une image qui devient fausse. Quand on s'identifie à travers une image et qu'on cherche la totalité du monde, c'est-à-dire toutes les femmes dans une seule image. Mais une femme européenne, pour moi, c'est une question qui reste ouverte, qui à la fois permet aux photographes de regarder autrement l'image de la femme, comme quelque chose d'impossible, et surtout, je dirais, pour être un peu plus démocratique, bien sûr, quelque chose d'infini. Pour moi, l'image de la femme européenne, c'est l'image de l'infini, c'est l'image qu'on ne peut pas définir, et c'est l'image aussi qui nous permet de créer. Et pour dire quelque chose de peut-être très très personnel, vous savez, tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de choses sur les photos, je me suis imaginé des choses sur vos photos, là, enfin, extraordinaires et tout ça. Et puis, à la fin, je me suis dit, mais finalement, j'ai peu d'informations. Seulement, il y a une information qui est fondamentale. C'est pourquoi je dis, pour moi, une femme européenne, c'est tout simplement un miroir. Vénus, la plus belle femme grecque, est représentée aujourd'hui, par exemple, même dans l'hôpital, quand une fille est née, on met un signe comme ça, un petit miroir de Vénus, et on sait que c'est une femme. C'est le miroir de Vénus. Bien sûr, il y a le nom propre qui manque, toujours, hein, souvent. Il faut mettre après le nom propre. S'il est un garçon, on met l'arc de Mars, n'est-ce pas? On dit c'est un garçon, c'est le signe biologique, hein, le symbole. Mais le miroir comme symbole, c'est justement par là où il faut commencer lorsqu'on veut parler de la femme européenne. Il faut commencer de parler, qu'est-ce que c'est que miroir? Quel miroir on va adopter, on va utiliser pour comprendre mieux l'idée, l'image de la femme européenne? Et donc, il faut prendre cet objet très fragile à la main et dire, voilà, la femme européenne commence par le miroir. Soyons très honnêtes et respectueux. N'essayons pas de briser ce miroir-là. Et je remercie tout le monde qui m'a donné cette occasion de pouvoir parler ici aussi dans ce cadre de mon propre image de la femme, c'est-à-dire de miroir que je porte moi-même, n'est-ce pas, mais qui m'est donné par la femme. Par l'image de la femme, par l'idée de la femme, et aussi par le rêve, surtout par le rêve de la femme, comme le rêve de quelque chose d'infini. Donc, ce miroir, je le tiens de façon très respectueuse, sans aucune prétention, et j'essaierai, je vous promets, enfin, j'essaierai de regarder à travers ce miroir le monde. Et pour terminer cette brève introduction, n'est-ce pas, je dirais, comme un de mes amis poètes, elle était si belle, il parle d'une femme, je ne sais pas laquelle, hein. Elle était si belle qu'elle était pour moi le miroir du plus beau du monde, du plus beau de la vie. Voilà, donc tout simplement un miroir, parfois c'est peut-être aussi miroir des choses pas aussi belles, mais tout de même le miroir, donc la possibilité de choix, la possibilité d'ouverture, la possibilité des rêves, d'images, d'imagination et de la création. Donc, je comprends un peu ça, et c'est pour ça que je suis très très content pour ce thème, la femme européenne, parce que ça, on va dans beaucoup de directions. En plus, il y a aussi déjà quelque chose d'européen, rien que le fait que c'est l'école donc Reflex qui organise ça. J'ai connu cette école à travers l'école de Vienne. Donc déjà une connotation européenne comme ça. Et puis ce thème, c'est vraiment très, très actuel et en même temps très difficile, mais qui donne une liberté peut-être parfois angoissante, mais une liberté magnifique, parce que c'est merveilleux quand on peut tenir un miroir, même s'il est parfois un peu brisé, morcelé, un peu trop coloré, un peu obscur et tout ça, mais c'est tout de même un miroir. Et sans miroir, on ne peut pas créer des réflexes et on ne peut pas voir, et surtout on ne peut pas voir ou prétendre de voir soi-même. Voilà, donc c'est quelques mots comme ça de ma propre réflexion sur ce thème.
Merci. Ben merci Eugène. Peut-être le public a des questions ou des choses à nous dire, parce que c'est vrai qu'on on vous a montré un peu des choses, on n'en sait pas trop. On n'a pas trop parlé de l'histoire de la femme historique et toute son évolution et ce qui s'est. On n'a pas essayé d'analyser, mais peut-être des gens ont envie de dire des choses différentes. Dont on n'a pas parlé, parce que voilà, donc on est encore là pour parler.
Hein. Si je peux me permettre, l'année dernière, dans les séminaires de psychanalyse, pendant une séance, on a cherché à savoir qu'est-ce que c'était que la femme. C'est-à-dire que la femme n'existe pas.
Oui, c'est là qu'on cadet. Je vais vous dire. Oui, oui.
Enregistrés, ils sont
liés
sur le site de la Réforme
de Couleur. Peut-être que
ça intéresse. Ah, c'est bien.
Aussi la réflexion des différents intervenants qui vont aider à étudier. Je peux dire. Écoutez, vraiment, c'est merveilleux. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Oui, c'est Lacan qui a dit la femme, ça n'existe pas. Mais vous savez, mon collègue d'autrefois, dans les études de philosophie à Lublin, à Slavoj Žižek, maintenant très connu. Donc, Lacan dit, Žižek réplique, il dit comme ça. Lacan dit, la femme, cela n'existe pas. Et Žižek dit, l'homme, c'est la femme qui s'illusionne d'exister. Qui a illusion d'exister. Voilà. Voilà, pour vous donner une petite explication. Donc, la femme, cela n'existe pas, mais l'homme, c'est la femme qui s'imagine d'exister. Voilà. Ah, voilà.
Bon, bah, sur ces paroles...
Oui, très bien.
En fait, moi, c'est plus des questions pratiques. Ouais, en fait, j'ai pas très bien compris ce qu'était l'atelier réflexe. Et peut-être le début et la fin du projet, c'est-à-dire comme j'ai compris l'histoire du singe, mais comment le projet a germé, comment ces associations se sont réunies et vers quoi ça va en fait. C'est ça que j'ai pas bien.
Bon, on ne le sait pas non plus vers quoi ça va. Hein. Mais ça va toujours quelque part. Hein. On connaît la fin. Tous, je pense. Non. Donc, ça a germé par hasard, comme on est là par hasard, et ça finira... chercher la femme, oui, ça, c'est aussi notre idée. Mais comment l'atelier réflexe, c'est une... Concrètement, ça existe depuis 12 ans. Ça n'existe plus depuis 2 ans. Mais bon, ça existe encore à travers des projets comme ça. Voilà, auxquels, en fait, finalement, en fait, c'était créé par un groupe de personnes, d'artistes, de personnes qui avaient envie de transmettre des idées à des gens plus jeunes qui cherchaient aussi des idées. Donc en fait, c'est un peu le moteur de l'atelier réflexe. Donc des gens différents qui sont présents dans la salle aussi. Et après, ça évolue aussi en invitant des gens extérieurs qui faisaient partie de rencontres, etc., comme Eugène Bazar, qui est là, et d'autres dont vous avez vu. En gros, le diaporama était constitué de gens qui ont intervenu à l'atelier réflexe et qui essaient aussi de soutenir des jeunes photographes. Quoi, jeunes, je parle, il y en a qui ont 50 ans, 60 ans aussi. Hein, jeunes, entre guillemets, qui sont toujours dans la recherche et qui ont besoin d'être entourés. On a tous besoin d'être entourés, de toute façon. Je crois, ou... Enfin, je sais pas. Voilà, l'atelier réflexe. Donc, et là, en fait, maintenant, c'est des projets... On essaie de continuer l'atelier réflexe à travers des projets. Des projets sur... donc là, c'est sur un an, ce projet. Donc, qui réunit autant des artistes plus confirmés qui vont parrainer un peu ces personnes. Et là, dans ce programme-là, il y a un échange aussi qui est fait avec une école à Séville aussi, qui a sélectionné des jeunes photographes. Voilà, et là, donc il y a un stage qui est organisé en novembre, donc où normalement chaque participant va ramener une série de photographies qui va être soumis un peu à une critique dans l'atelier avec les intervenants, et ils vont continuer à faire des prises de vue pendant 15 jours et essayer de continuer leur projet. À la fin, il y aura une sélection pour participer à une édition et une exposition itinérante en Europe. Voilà. Donc l'exposition, en fait, la première exposition se fera d'ailleurs à Montreuil aussi, avec les Vincent Chaviret en juin. Et ensuite, après, partir en Autriche et en Allemagne et en Espagne. Et on reviendra en France. Voilà. Et ça, c'est l'atelier réflexe. Mais il y a des... Autrement, il y a des... Ceux qui étaient là tout à l'heure sont là et aussi peuvent parler de leur expérience, parce qu'il y en a qui sont restés 6 ans, 7 ans et qui sont encore là et qui continuent à participer activement aussi au projet sous d'autres formes, en tant que photographe mais aussi en tant qu'administrateur ou que générateur de plein de choses différentes. Mais ils sont là, vous pouvez les... Il y en a beaucoup, hein. Josquin, Margot, que je connais depuis 8 ans, qui a fait l'atelier réflexe. Josquin, qui était à Marseille, que je connais depuis 5 ans. Anne, Thomas, Jean-Guy, qui vient d'arriver aussi, qui participera au projet européen. Voilà. Qui a... Voilà.
Comment ? Ah non, mais vous pouvez parler entre vous. Vous n'avez pas besoin de ce qu'il faut dire.
De l'atelier populaire, voilà, ouais, c'est ça aussi que j'aimerais entendre. Qui est de... Ah, d'accord, bah, très bien. Voilà. Donc ça c'est concret. Donc ça, moi, je vais venir en tout cas le 31 octobre pour rencontrer ceux qui ont envie de participer au projet. Donc là, je ne sais pas si ce diaporama était une source d'inspiration ainsi que tout ce qu'il y avait autour pour vous, quoi, j'espère, de montrer un peu des visions différentes et des possibilités différentes. En fait, il n'y a aucune... on veut pas être didactique en aucune façon. Et que vous essayez de définir une orientation, et quand on se revoit le 31, d'arriver quand même avec des images, ça c'est très bien. Et aussi, il y aura des rencontres avec les gens de l'atelier réflexe. Donc tous les séminaires, tout le programme de séminaires, vous pourrez venir, et etc. Et j'espère aussi même des rencontres pour ceux qui en a qui habitent Montreuil aussi. Voilà. Vous êtes depuis longtemps à l'atelier de photographique de...
J'y étais l'année dernière, donc on a parlé du projet en toute fin d'année, mais avec peu de détails précis. Donc ce qu'on avait, c'était l'intitulé.
D'accord.
Et à peu près tout. Et alors, en fait, pour moi, la surprise, c'est d'apprendre que tout se fait dans les premiers mois de la saison, là, et qu'en gros, au mois de novembre, les choses sont finies. Moi, j'avais pas compris ça. J'avais compris que c'était un projet où on allait...
Non, parce qu'en fait, pour vous, ça se fait sur plus long terme, parce que vous, en fait, l'idée, c'est... Il y a un CDRM aussi qui est fait pour ce projet, donc pour participer au CDRM, mais ça, il y a plus de temps pour ça. Donc, ça vous laisse le délai qui était pour les autres de l'autre côté, quoi, puisque c'est en avril. Donc, jusqu'en avril, où on peut continuer à rechercher des images et les éditer.
D'ailleurs, c'est cette période-là qu'on fera une mise en
commun. Un séminaire, oui. Voilà.
Des images en cours de réalisation des uns et des autres qui sont venus en discussion. Et on se revoit pour une restitution à la rentrée.
À la rentrée, une présentation.
Oui.
ce qui est très, très intéressant pour moi, parce que j'ai travaillé par exemple au CNRS sur un thème, les bases communes dans la poésie, le roman et la, donc la littérature en général européenne. Et moi je trouve qu'en photographie c'est aussi très important de sentir, de voir ces bases communes de l'Europe, n'est-ce pas, c'est-à-dire comme cercle culturel, comme continent, comme histoire, comme sensibilité, comme découverte, comme renouveau, etc. Parce que après, ça s'approche aussi, et puis on comprend qu'on fait partie d'un tout et que l'Europe, c'est pas un mot vide, mais qu'il y a quelque chose qui existe. Quelque chose qui existe, mais que parfois on se rend pas compte, et que chemin faisant par un thème, on peut rencontrer ce caractère européen, même s'il demeure invisible, caché ou très voilé. Et ça, c'est passionnant. Je pense que c'est ça qui est très intéressant dans ce projet. La femme européenne, c'est merveilleux. Bon, surtout si on la trouve un jour. Et si on la trouve pas, bon, tant mieux, parce qu'on fait la démarche comme Ulysse, n'est-ce pas? On rentre sur l'Ithac, n'est-ce pas? Mais l'Ithac, ça existe. Donc, la femme européenne aussi.
Oui. En tout cas, l'image de la femme européenne, elle existe vraiment. Hein. On la voit partout.
Voilà.
On ne peut pas y échapper, je crois.
Et il faut se libérer.
Par contre, je pense qu'il faut échapper de
Il faut se libérer de cette image.
En fait, c'est ça.
Oui.
On va essayer de montrer les rescapés de la femme européenne. Voilà. Quoi. Mais en étant femme européenne, bien sûr.
Voilà.
Voilà.
Vous avez des questions?
Moi, c'est plutôt par rapport au terme de la femme, est-ce que c'est pas justement ce terme qui enferme, comment dire, le terme de la femme? J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui objectalise totalement, qui réduirait les femmes à une espèce d'image, quelque chose qu'on peut voir partout, alors un rond, un truc qu'on pourrait retrouver dans les images de pub, c'est pas quoi, la femme, un truc qui justement, ce qu'on vous dit, la femme n'existe pas.
Justement ouvrir le terme à
la femme, les femmes ou une femme. Et la femme, c'est quand même, sans
vouloir faire
féministe
de base,
c'est comme super misogyne.
C'est...
La femme, c'est super misogyne. D'utiliser le terme la femme plutôt que les femmes.
Oui, oui, c'est très juste.
Très juste.
Oui, non, mais il y a le problème. Un de mes amis a dit la femme, c'est l'homme que je préfère. Et autre a dit, l'homme, c'est la femme que je préfère. Vous comprenez, c'est difficile de se situer d'un côté ou de l'autre, parce que c'est en mouvement, n'est-ce pas? Il faut surtout faire les détours esthétiques et artistiques, les détours aussi de se libérer des clichés, de se libérer des idées reçues.
Moi, excuse-moi, j'ai pas très bien compris la femme, les femmes. J'ai du mal. Non, le côté misogyne dans l'utilisation de la femme ou le côté pas misogyne dans l'utilisation de les femmes, j'ai du mal. Ben c'est au pluriel là, mais.
Ah,
mais
la femme, beaucoup plus que les femmes.
Ah oui,
oui.
Pourquoi pas? Enfin.
Oui, dans la philosophie allemande, le romantisme allemand a utilisé même les philosophes très modernes, par exemple, comme Ernst Bloch, il parlait de l'éternel féminin qui nous tire en avant. Mais cet éternel féminin, c'est quelque chose, ça peut être l'évolution, ça peut être le progrès. L'éternel féminin, ça signifie une forme d'utopie. N'est-ce pas? Aussi dans la poésie française, la femme, c'est l'utopie de l'homme, par exemple. Mais moi, je préfère dire l'éternel féminin. personnellement, hein, l'éternel féminin comme une espèce d'élan, comme une espèce de la recherche vers l'infini, bien sûr, n'importe où on se situe, n'est-ce pas? Peut-être ce serait mieux de dire l'éternel féminin. Oui.
Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme multitude.
Comment le
multitude?
Multitude.
Oui. Oui, parce que je vais vous dire pourquoi multitude. Moi, souvent, quand je donne des conférences, on me demande le problème de la perception. Voilà. Et je raconte l'histoire de l'éléphant. Dans un village en Asie, où il n'y avait que des aveugles, quelqu'un ramène un éléphant et demande comment c'est un éléphant. Alors, les gens regardent, les aveugles, mais c'est l'humanité. Et celui qui regarde la trompe, il dit, un éléphant, c'est comme un tube. Celui qui regarde les oreilles, dit, un éléphant, c'est comme un tapis. Celui qui regarde les jambes, dit, un éléphant, c'est comme une colonne très solide. Celui qui regarde la queue d'un éléphant, c'est comme une corde suspendue du ciel. Celui qui regarde des défenses, dit, oui, un éléphant, c'est comme des flèches. Et moi, je ne vis pas en Afrique, en Asie, alors on m'a ramené une femme. Et puis, il a dit, comment c'est une femme? Alors je commence à regarder, je regarde la chevelure, je dis, une femme c'est comme une harpe suspendue sous le cou du vent. Et puis j'étais un peu pudique, je regardais sa montre, et je dis, ah, une femme c'est comme un horloger, pour l'approcher, il faut être vraiment un mécanicien fin. Et puis je continue, n'est-ce pas, je suis très pudique, on me demande, mais comment c'est une femme? Alors je regarde la poitrine, je dis, une femme c'est comme les coupoles dorées de l'église Saint-Basile à Moscou, au coucher du soleil. Et je continue, on me force, n'est-ce pas, de dire comment c'est une femme. Alors je regarde donc les genoux, je dis, une femme c'est comme les assiettes en or dans lesquelles se sont exilées nos espérances. Alors, je continue, n'est-ce pas, parce qu'on m'oblige. Alors, je regarde le public, je dis, une femme, c'est comme un grand savant spécialisé en théorème de Pythagoras, etc., etc. Donc, on peut, dans cette multitude, trouver des choses, quelques détails qui renvoient les métaphores, les images, mais on ne peut jamais percevoir comme une totalité finie. Il faut regarder, donc, l'éternel féminin ou la femme ou l'homme, il faut regarder comme une totalité ouverte. Je pense que c'est ça. Une totalité ouverte, n'est-ce pas? Parce que comme le point zéro du monde, mais qui s'ouvre surtout et en image aussi, en image, en description d'image, en rêve, etc. Bon, une idée comme ça, un peu personnelle. Multitude, oui, c'est multitude.
Voilà.
Bon, ben, d'autres questions? Ben, le débat est ouvert, alors, et encore merci, Annie, et... Voilà. Bon.
Je vous remercie tous. On reste encore un petit peu à voir un petit mot ensemble. Là,
oui, puis, voilà.
On peut discuter à bâton rompu avec un verre.
Voilà, tout à fait. Oui. Bon, Eugène, merci.